Voilà, ça a commencé. Donc, nous allons travailler notre deuxième cours sur les sacrements. Mais comme j'ai fait pour vos camarades de l'après-midi, je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous avez, par rapport à, après une semaine dans laquelle tout a décanté de ce que j'ai dit la dernière fois, est-ce que vous avez des questions à poser ou quelques aspects que vous voudriez qu'on approfondisse ou quelque chose qui est resté en suspens comme question chez vous? Est-ce que si vous avez des questions, je peux, voilà, essayer de répondre. Tout va bien, en principe. Très bien. Alors, je me mets en route pour le deuxième cours. Le deuxième cours que, alors, je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Voilà, vous voyez le plan du cours, n'est-ce pas? Vous le voyez là? C'est parfait. Parfait. Voilà. Donc, si vous rappelez ce que nous avions dit la dernière fois, nous commençons par les sacrements de l'initiation chrétienne. Donc, comme je le soulignais, derrière la notion d'initiation chrétienne et même derrière la réalité de ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, nous retrouvons, selon l'expression consacrée aujourd'hui, trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Cette perception de sacrement composant ce qu'on appelle ou permettant de vivre ce qu'on appelle l'initiation chrétienne est relativement récente. Je veux dire que c'est surtout le Concile Vatican II qui a consacré dans l'un des rituels cette expression, l'expression initiation chrétienne. On ne la retrouvait pas dans les rituels précédents et effectivement, c'est une initiation qui a une longue histoire. Et je voudrais donc commencer, vous voyez, je suis dans l'introduction, tout simplement par vous parler de cette notion et d'où elle vient, comment elle se présente, comment nous pouvons l'appréhender. Alors, tout d'abord, prendre conscience d'une chose. Vous avez là un mot, initiation, hein, donc plutôt là, voilà, initiation. Et puis vous avez un adjectif, chrétienne. C'est l'expression initiation chrétienne qui a été retenue par le Concile Vatican II dans un des rituels, le rituel du baptême des adultes. Eh bien, l'expression, notamment initiation, a ses racines, en vérité, dans la culture pré-chrétienne, hein, notamment dans la culture philosophique, religieuse, grecque, avant le christianisme lui-même. Ce qui fait que cette terminologie est originairement liée au contexte de ce qu'on appelle les cultes à mystère dans l'Antiquité. Qu'est-ce que c'était ces cultes à mystère? Déjà, une chose à penser, c'est que en Grèce, dans la Grèce antique, mais aussi à Rome, il n'y avait pas ce que nous appelons religion au sens fort du terme, hein. Il y avait des cultes religieux ayant une portée religieuse, mais il n'y avait pas une religion telle que nous la connaissons avec le christianisme, telle que peut-être le judaïsme, vous voyez. Il y avait des pratiques religieuses. Et si nous restons simplement à la Grèce, eh bien la Grèce a mis, en Grèce, il y avait, on mettait en œuvre des rituels qui suivaient généralement, hein, l'évolution du temps et donc de l'année, hein, les différentes saisons, notamment la perception qu'on pouvait passer d'une saison qui indiquait la mort, une saison qui indiquait la vie, passer entre l'hiver et le printemps, liée à des fêtes agraires, cette alternance de saisons permettait de célébrer des cultes aux dieux qui pouvaient effectivement être représentés comme dynamisant ces saisons. Et donc, dans les cités grecques, dans la civilisation grecque, on pouvait effectivement mettre en œuvre des rituels, des cultes qui imitaient cette alternance des saisons. Parfois, ça pouvait être des rituels, on pourrait dire, tout à fait liés à cette évolution du temps, mais parfois pouvait avoir aussi un enracinement philosophique, c'est d'une initiation à une connaissance. Généralement, ces rites et ces mises en œuvre rituelles étaient réservées à une élite de personnes. Elles n'étaient pas accessibles à tout le monde. Il y avait des groupes fermés qui pouvaient effectivement initier à ces rituels. Et donc, c'est de là que vient, je vais essayer de vous l'écrire ici dans une feuille, si j'y arrive. Voilà. C'est de là que vient le mot que nous avons déjà rencontré la dernière fois, le mot mysterion en grec. Vous le voyez là, je suis en train de l'écrire, mysterion. Et si vous voyez, la racine du mot mysterion comporte un verbe, ça c'est un mot, mais le mot a la racine, le verbe muo, hein, qui veut dire en grec fermer la bouche. C'est comme quand on fait le sif le soir avec un visio. Il faut allumer les micros. C'est plutôt une plaisanterie. Mais voilà, c'est fermer la bouche littéralement. Hein. Pourquoi? Parce que justement, ce verbe ou cette expression est née de la pratique de ces rites à mystère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tous ceux qui, celles, plutôt les hommes qui participaient à ces rites, étaient tenus à ne pas révéler ce qu'ils avaient vécu, hein. Et donc ils devaient se taire. D'où la difficulté pour les chercheurs aujourd'hui, les historiens ou les, oui justement les chercheurs qui travaillent sur les religions et les phénomènes religieux dans l'Antiquité, de repérer qu'est-ce qu'on pouvait faire. On connaît en gros quelles étaient les fêtes. Certains fêtes des dieux à cette époque, mais on ne connaît pas le rituel de ce que l'on faisait dans ces lieux d'initiation. Donc, fermer la bouche, mais du coup, à partir du verbe lui-même, on aura un substantif qui est celui-ci, muesis, qui veut dire effectivement initiation. Vous voyez, donc, il y a tout ce monde de lexical qui permet d'appréhender une pratique religieuse d'ordre initiatique. Alors là, nous sommes dans la période pré-chrétienne, c'est-à-dire c'est une pratique dans n'importe quelle ville grecque à cette époque-là. Comme je le redis, ça avait parfois une dimension philosophique, c'est dans les cercles philosophiques, dans certains cercles particulier, fermé. Alors, on peut bien penser que quand le christianisme, qui naît naturellement à Jérusalem, dans un contexte judéo-chrétien, mais quand il commence à rencontrer le monde grec, qui est quand même porteur de la culture des diasporas juives et du judaïsme, rencontre ce type de culture. Et se trouve en face de ce type de vocabulaire, vous le voyez. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas révéler, qu'il faut comment dire, garder dans le secret. Bien, un des premiers, on peut dire le champion de celui qui emploie beaucoup ce vocabulaire, est Saint Paul. Donc, Saint Paul, dans ses écrits, emploie pas mal le mot mysterion, mais justement lui donne une autre signification. Je cite de mémoire l'un de ses passages dans une de ses lettres. Paul dit à peu près ceci, vraiment je paraphrase ce qu'il dit. Il dit, le mystère qui était caché par Dieu dans les temps passés, est désormais, aujourd'hui, révélé par le Christ. Et le Christ l'a transmis, l'a révélé à son Église. Et donc, de là, quel est ce mystère? Dieu sauve l'humanité par le Christ, par sa mort, sa résurrection. Donc, pour penser le kérigme chrétien, Paul se sert de ce vocabulaire lié au culte mystère, mais, vous entendez bien, lui donne une toute autre signification. Ce n'est plus quelque chose que l'on cache, que l'on garde secret, mais c'est quelque chose qu'on révèle. C'est le propre de l'évangélisation, le propre de la mission chrétienne. Il faut, au contraire, annoncer la mort et la résurrection du Christ. Et donc, effectivement, le vocabulaire, c'est à partir de Paul, rentre, oui, est reçu dans le monde, dans le christianisme des premiers temps. Mais, j'insiste beaucoup, tout en le recevant du point de vue de la notion, d'une notion qui du coup devient théologique, on est très réticent, surtout les trois premiers siècles du christianisme, à l'employer, si je peux dire, à l'utiliser, ce vocabulaire, quand il s'agit de parler des rites chrétiens. Vous comprenez bien que les théologiens de l'époque, du deuxième, troisième siècle, sont réticents à employer ce vocabulaire. Pourquoi? Parce que ça risquait de les confondre avec les rites païens. Donc, surtout, il ne fallait pas employer ce vocabulaire. Il fallait, au contraire, s'opposer vis-à-vis des pratiques païennes et de ce type de vocabulaire. C'est seulement à partir du IVe siècle. Désormais, vous repérerez des époques dans notre perception de l'évolution des sacrements qui sont importantes. Le IVe siècle est extrêmement important. Pourquoi? Vous le savez, le IVe siècle est le siècle, notamment par une date importante, 313, qui marque, qui est le jour où Constantin donne l'édit dit de Constantin, nommé de son propre nom, qui permet au christianisme de professer sa foi, d'avoir des églises, et même l'empereur lui-même, Constantin lui-même, construit des églises pour les chrétiens à Rome, à Jérusalem et dans d'autres villes de l'Empire. Et donc, les chrétiens ont la liberté de célébrer leur culte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les chrétiens, les théologiens chrétiens, à partir du IVe siècle, quand ils doivent désormais et célébrer le culte et surtout parler de ce culte, notamment du baptême, de l'Eucharistie, eh bien, vont désormais adopter ce type de vocabulaire. Ils n'hésitent plus à considérer ce vocabulaire comme important pour, justement, définir le baptême et l'Eucharistie. Ce qui fait qu'on parlera d'initiation des chrétiens, on parlera de mystère du baptême, des mystères au pluriel quand il s'agit de l'Eucharistie. Donc, vous voyez, tout ce vocabulaire va être pris en compte par la langue grecque, qui était la langue principale, au moins à partir du IVe siècle. Et le monde latin, vous vous rappelez, on en avait parlé la dernière fois, le monde latin va traduire le mot grec « mysterion » par le mot sacramentum, tel que effectivement nous l'avons dit la dernière fois. Sacramentum traduit le mot mysterium en grec et nous en avons déjà parlé la dernière fois. Donc tout ce type de vocabulaire va désormais être employé par les chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes là dans une théologie aussi qui exprime l'expérience sacramentelle. C'est de l'ordre d'un mystère auquel il faut initier et qu'il faut après annoncer justement par la foi. Eh bien, la terminologie, notamment dans le monde grec, va rester jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire. C'est la partie orientale du christianisme, les orthodoxes notamment, gardent encore ce type de vocabulaire. Mais par contre, dans le monde latin, le mot, tout ce qui est le vocabulaire latin lié à ce type d'expérience comme initiatio, c'est-à-dire initiation, hein, ou encore, qu'est-ce qu'on pourrait dire, oui, le verbe de l'action initiari, être initié. Eh bien, tout ce type de vocabulaire, hein, va disparaître, non, va s'éclipser dans les livres liturgiques, dans les textes. Il y a un petit bruit, si vous pouvez couper le micro, merci. Alors, je vais essayer. Voilà, je reprends donc le partage de l'écran. J'ai éteint un micro manu militari. Donc, je disais, le mot, le vocabulaire dans le monde latin, donc en Occident, va disparaître. Et pourquoi ça va disparaître? Tout simplement, c'est une des hypothèses qui me semble très plausible, c'est qu'à partir du VIe siècle, l'initiation n'est plus pratiquée. Qu'est-ce que je veux dire? Elle n'est plus pratiquée. Elle n'est plus pratiquée sur des adultes. Le baptême, jusqu'au VIe siècle, est adressé, a fait l'objet, et pour des adultes. Mais à partir du VIe siècle, la société étant devenue chrétienne, eh bien, les familles elles-mêmes naissent déjà dans une culture chrétienne, et font baptiser les enfants dès leur plus tendre âge. Et donc, l'initiation des adultes s'arrête et commence le baptême des enfants, le pédobaptisme. Et donc, la non-pratique des rites d'initiation, que nous verrons comment ils vont se présenter, comporte aussi la perte de ce type de vocabulaire. Mais le vocabulaire, en vérité, c'est très intéressant, va rester, par exemple, dans un lieu qui, naturellement, me touche, notamment dans l'initiation des moines, c'est-à-dire dans les rituels pour les moines, pour la profession monastique, là où on parlera dans les livres liturgiques de initiation pour faire un moine, pour initier un moine, voilà. Donc, du coup, la pratique monastique, qui est très semblable à une pratique d'initiation, garde ce type de vocabulaire, mais pas du côté des sacrements, pas du côté du baptême. Et donc, imaginez-vous, dans le monde latin, tout cela s'éclipse, et il faut attendre le XVIIe siècle pour que ce vocabulaire recommence à venir. Et vous savez où on pourrait dire, où ce vocabulaire est ressuscité. Il est ressuscité notamment grâce aux études que sont faites à cette époque, notamment à Saint-Germain-des-Prés. Alors, les Parisiens ici présents savent bien où se trouve Saint-Germain-des-Prés. Vous savez qu'à côté de Saint-Germain-des-Prés existe une station de métro qui s'appelle Mabillon. Eh bien, Mabillon n'est pas qu'une station de métro. Mabillon est le nom d'un grand bénédictin de l'époque du monastère de Saint-Germain-des-Prés, qui était donc, on l'appelle la congrégation qui habitait Saint-Germain-des-Prés, on l'appelait la congrégation mauriste de Saint-Maur. Donc, eh bien, ces savants moines, à partir du XVIIe siècle, commencent à étudier les manuscrits de l'Antiquité grecque et latine, ils les éditent. Donc, nous avons notamment dans la patrologie grecque et la patrologie latine tous ces textes, naturellement la plupart chrétiens, des époques antiques, et donc des premiers siècles du christianisme jusqu'au Moyen Âge. Et le travail d'édition de ces textes permet de mettre en lumière les rites chrétiens tels qu'ils étaient vécus dans l'Antiquité. D'où cette perception qu'effectivement les rites étaient multiples. Donc, comportaient par exemple une plongée d'eau, une onction, la participation à l'Eucharistie et la rencontre aussi d'un certain vocabulaire lié au vocabulaire de l'initiation. Et donc, peu à peu, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, le vocabulaire rentre à nouveau en théologie hein, pour parler des rites de l'initiation. Et l'on doit à un théologien qui s'appelle Louis Duchesne. Louis Duchesne était un clerc théologien qui enseignait à l'Institut catholique de Paris et qui, dans son ouvrage « Les origines du culte chrétien », va effectivement, quand il va parler des rites du baptême dans le monde chrétien, cet ouvrage n'est rien d'autre que la mise par écrit de notes prises par les étudiants. Et donc, dans ce livre, quand il doit parler des rites du baptême, il va employer l'expression « initiation chrétienne ». Vous voyez ? Donc, il va ajouter au mot « initiation » qui pouvait être ambigu, un adjectif qui définit effectivement les rites du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie. Et donc, à partir du XXe siècle, du début du XXe siècle, le mot va être retenu par la théologie et va arriver, comme je vous disais, c'est de là que nous avons commencé, va arriver au Concile Vatican II. Et quand il faudra écrire un rituel du baptême pour les adultes, on va l'appeler rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Vous voyez bien que l'expression elle-même est désormais consacrée dans un rituel, chose qui est très importante parce que ça veut dire qu'on lui donne une certaine importance comme notion. Et nous verrons pourquoi nous pouvons appréhender le baptême et la confirmation eucharistique comme étant une initiation. Une fois, donc, il est important de parler du pourquoi on a ce type de notion. Je voudrais continuer notre présentation. Du coup, une fois compris d'où vient cette notion, on va regarder comment, au contraire, les rites sont nés et comment le baptême est né en monde chrétien. Et donc, effectivement, nous allons d'abord nous attarder sur le Nouveau Testament et puis le premier volet du cours de ce soir. Et puis, nous allons, dans la deuxième partie du cours, prendre en compte au moins ces documents-là. C'est là que je suis arrivé cet après-midi, qui montrent qu'ils ne sont pas des textes scripturaires, ce sont des textes de la littérature chrétienne antique et qui nous permettent d'avoir accès à la manière dont on pouvait célébrer le baptême à partir du IIe siècle jusqu'au IVe siècle. Et donc, je commencerai par le témoignage du Nouveau Testament et notamment par les sources qui nous permettent d'accéder à ce témoignage du baptême à l'époque néo-testamentaire. Et je le rappelais cet après-midi, je le rappelle pour ceux qui, parce que souvent on est un peu surpris de dire cela, vous savez bien que l'auteur qui nous rapporte le plus ancien comme étant témoin des rites chrétiens est naturellement Paul. Pourquoi? Tout simplement parce que les lettres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Hein. Et donc, Paul, les lettres de Paul les plus anciennes sont datées en gros hein, des années 54, 55, notamment la première lettre aux Corinthiens, la plus ancienne que l'on connaisse. On retrouve des témoignages de Paul. Après, du coup, On aura effectivement d'autres témoignages, comme les Actes des apôtres, les Évangiles, mais qui sont postérieurs à Paul. Eh bien, dans ses écrits, dans les lettres de Paul, Paul nous offre effectivement les premiers renseignements sous forme d'allusion, sous forme d'allusion au sujet de l'expérience baptismale des communautés auxquelles il s'adresse. Alors, ne pensons pas de retrouver le rituel du baptême au moment du Nouveau Testament. Non, pas du tout. On retrouve plutôt des allusions du geste baptismal, mais qui nous suffisent pour comprendre d'abord, être rassuré, penser qu'il existait, et voir en quoi pouvait consister, en quoi pouvait consister. Et donc, effectivement, dans la première lettre aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul veut réagir face aux factions qui minent l'unité de la communauté. C'est la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 10 à 17. C'est dans ce contexte-là que Paul parle de ces divisions. Et dans ce contexte-là, Paul semble indiquer que le baptême était, dans la communauté de Corinthe, était administré, je cite, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vous lis un de ces passages, notamment un passage plus précis que vous pouvez aller lire vous-même, toujours dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 11 à 16, où il est dit ceci, je vous le cite. Voilà ce que vous êtes. Non, c'est ce texte-là plutôt. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Voilà les divisions à l'intérieur de la communauté. Je m'explique, dit Paul. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas, moi au Christ. Puis Paul réagit et dit, le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, nul ne peut dire que vous avez été baptisé à mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre que je sache. Le texte est assez intéressant parce que, vous voyez, face à ces divisions, Paul dit, est-ce vous avez été baptisé au nom de Paul? Ce qui veut penser que le baptême était célébré, mis en œuvre à partir d'une parole qui disait au nom d'eux. Et donc, effectivement, on peut penser que donc le baptême était administré au nom de Jésus, comme on le voit dans d'autres textes. C'est ainsi qu'il va affirmer un peu plus loin, dans la première lettre aux Corinthiens 6, verset 11, 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 11, où il dit, voilà ce que vous étiez, du moins quelques-uns, et puis il continue, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc vous avez bien entendu, hein, il y a un vocabulaire tout à fait baptismal, au moins aquatique, hein. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, au nom de Jésus. Et toujours dans cette même lettre, la première lettre aux Corinthiens, le terme sanctifié, tel que nous l'avons entendu, peut faire penser qu'il s'agit encore de baptême. Notamment quand Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, donc première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14, je vous lis ce passage, ce verset, car le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il parle de couples qu'on appellerait aujourd'hui mixtes du point de vue de la pratique religieuse, d'un mari, par exemple, païen, qui est marié à une femme baptisée, croyante, l'indique, il est sanctifié à cause d'elle. Donc, le baptême sanctifie même le mari. Et là, le mot sanctifié, probablement, est un synonyme qui, pour dire il est baptisé, qui rappelle le baptême. Dans une autre épître, l'épître aux Éphésiens, les épîtres aux Éphésiens, je vous fais remarquer que l'épître aux Éphésiens, même si on dit de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, n'est pas de Paul, mais on la considère aujourd'hui comme une lettre deutéro-paulinienne, c'est-à-dire comme faisant partie de l'école de Paul, de ceux qui ont pu suivre Paul et qui nomment cette lettre comme venant de Paul pour donner autorité à la lettre. Mais la théologie est bien celle de Paul. Et dans l'épître aux Éphésiens, les références, c'est Éphésiens 5, 26, 5, 26. Bien, dans cet épître, dans un contexte de morale domestique, notamment des relations entre mari et femme, l'auteur de la lettre va rapprocher, un peu par analogie, cette relation entre un mari et une femme, de celle qui existe entre l'Église et le Christ. Et la lettre aux Éphésiens dit ceci, « Le Christ qui a voulu ainsi rendre sainte l'Église en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. » Cette expression est assez intéressante parce qu'elle unit d'une part le geste baptismal, la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole, c'est accompagné d'une parole. Donc probablement il y a derrière une allusion au rite baptismal. D'autres écrits du Nouveau Testament laissent par contre entrevoir une pratique et une doctrine du baptême sont un bien commun des communautés chrétiennes. Je pense notamment à la lettre, je le mets là, la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, vous pourrez aller voir vous-même, versets 1 à 2, ou encore verset 4. Voilà. Dans ce texte, on sent bien que le baptême est considéré comme quelque chose d'acquis, comme une pratique chrétienne. Et ainsi, il y a même, on voit naître à cette époque, toute une exégèse, une interprétation de l'Écriture qui se développe autour du rite du baptême lui-même. Je pense notamment à la relation que la première lettre de Pierre au chapitre 3, verset 21 fait, donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, là où Pierre met en relation les eaux du déluge avec justement le baptême chrétien. Et donc, il y a une relation entre la première alliance, la deuxième alliance, notamment par le baptême. Et donc, il montre qu'il y a une relation de continuité, ou pour le dire autrement, que le déluge annonce le rite qui purifie, qui sanctifie, comme nous venons d'entendre, et incorpore au Christ. Quand on passe par contre aux actes des apôtres, qu'est-ce que l'on voit? Et puis les évangiles, je donne aussi un petit éclairage sur les évangiles, notamment autour de la figure de Jean Baptiste, de Jean-Baptiste. Donc, après les lettres de Paul, les actes des apôtres qui ont été écrits, vous le savez bien, par un disciple de Paul, Luc, eh bien, les actes des apôtres rapportent quelques baptêmes, presque tous célébrés au nom de Jésus, au nom de Jésus. On le retrouve en acte 2, verset 38. Notamment, au début des actes, je vous fais remarquer, là aussi, si vous avez le temps de le lire, allez regarder la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Et alors, le jour de la Pentecôte, vous savez, le jour où les apôtres reçoivent l'Esprit, on a comme cette indication que les apôtres sortent du cénacle, se mettent à prêcher, notamment Pierre fait un grand discours dans lequel il développe toute l'histoire du salut et il termine en gros en disant, voilà, ce Christ qui devait venir, vous l'avez tué. Et le texte des Actes des Apôtres dit, alors les auditeurs furent pris de remords, de tristesse, et ils dirent à Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre dit ceci, je paraphrase ce que Pierre dit, convertissez-vous, donc premier aspect pour devenir chrétien, se convertir, faites-vous baptiser. Pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. Oui. Trois moments. La conversion, le baptême, le don de l'Esprit. On a vraiment là quelque chose qu'on verra comme une constante dans la description des baptêmes, du baptême dans les actes des apôtres. Vous savez aussi qu'il y a le fait à un moment de Paul qui sont convertis justement sur le chemin de Damas. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que le récit de la conversion de Paul ou de cette expérience de Paul spirituelle, mystique de Paul, fait allusion au fait qu'il sera baptisé, mais rien n'est dit de la manière dont Paul est baptisé. Par contre, on rapporte, toujours dans les Actes des Apôtres, de baptême de groupe en groupe, en Samarie, à Éphèse. Il y a parfois des chefs de famille qui sont baptisés avec leur famille. Et puis, donc, plusieurs expériences de ce type-là. Alors, ce qui est intéressant, toujours dans les actes, c'est de constater que souvent, le baptême est mentionné à la suite d'un rite d'imposition des mains. Donc, d'abord, il y a une imposition des mains, et puis le baptême, et les deux gestes sont en vue de conférer justement le don de l'Esprit. Nous retrouvons ça en acte, chapitre 8, verset 16, ou en acte, chapitre 19, verset 6. Mais parfois, et ça c'est très important pour comprendre la liberté de Dieu, mais parfois ça peut arriver que le don de l'Esprit précède le baptême. Le don de l'Esprit précède le baptême, comme c'est le cas de Corneille en acte, chapitre 10, versets 47 à 48. Je vous disais l'importance aussi des évangiles pour comprendre le baptême. Et quand nous disons évangile, il y a deux lieux fondamentaux qui font allusion au baptême. D'abord, le lieu plus important, qui n'est pas vraiment chrétien, c'est le baptême de Jean. De Jean le Baptiste. Nous l'avons entendu le jour du baptême du Christ lundi dernier, il y a 7-8 jours. Voilà. Les récits du baptême du Christ, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre? Je vous renvoie de mémoire à ces passages de l'évangile, des évangiles quand il parle de Jean-Baptiste. Eh bien, ces récits mettent bien en œuvre Jean-Baptiste baptisant dans le Jourdain d'un baptême qui est pour la rémission des péchés, qui est en vue de la pénitence, voyez, d'une conversion justement, en vue des temps qui sont derniers selon Jean-Baptiste, hein, en vue d'une dimension assez eschatologique. Je voudrais juste vous montrer l'importance de ce baptême. Il n'est pas encore un baptême chrétien, mais il annonce le baptême chrétien. Pourquoi il annonce le baptême chrétien? Parce que d'abord, il y a un baptiseur, il y a quelqu'un qui baptise. Ce n'est pas un simple rite de purification que l'on reçoit soi-même, que l'on se fait soi-même, comme la plupart des rites juifs de purification. Mais c'est un baptiseur, c'est quelqu'un qui baptise, hein. Et il baptise en vue d'une conversion, d'une purification et d'une attente des temps nouveaux. Mais naturellement, il n'est pas baptisé au nom de Jésus. Alors que les autres, le baptême chrétien, aura en gros les mêmes caractéristiques, une plongée dans l'eau pour la rémission des péchés, mais du coup, le baptême chrétien sera donné au nom de Jésus, comme nous le verrons dans les finales des évangiles de Matthieu ou dans la finale des évangiles de Marc. Cela me permet de résumer un peu les structures qui ritualisent le baptême. Tout d'abord, toujours dans le Nouveau Testament, on peut repérer des passages vraiment très allusifs qui indiquent qu'il pouvait y avoir un enseignement avant le baptême, un enseignement d'ordre kérigmatique, d'annonce de la foi au Christ, mais ou bien des enseignements après le baptême. Le plus bel exemple de cet enseignement après le baptême, nous l'entendons tous les ans à la vigile pascale. C'est le chapitre 6 de la lettre aux Romains. Mais ce chapitre 6 a des caractéristiques baptismales tout à fait évidentes, parle de la vie du baptisé, et donc probablement, c'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse assez probable, c'est que pouvait être comme un enseignement après le baptême. Concernant les ministres, justement, je le répète, c'est très important, tout baptême chrétien est toujours un baptême que l'on reçoit, pas que l'on se donne. Hein. C'est ce qui caractérise le baptême chrétien par rapport au rite juif de purification. Hein. Eh bien, les ministres sont généralement les apôtres, ceux qui accompagnent les apôtres, hein, voyez, des chefs de communauté. Et les gestes rituels, je reviens, c'est peut-être important de souligner cela, vous l'avez compris, c'est le geste d'eau. Je vous fais remarquer que le mot baptême veut dire effectivement plonger dans l'eau, plongeon, hein, c'est un plongeon, baptême, dans l'eau, hein. Et puis nous avons vu l'importance de la parole qui accompagne le geste au nom de Jésus. Et là, je voudrais juste vous faire remarquer une chose. À l'époque du Nouveau Testament, on rencontre deux formules deux paroles baptismales, celle que je viens d'écrire au nom de Jésus et l'autre est celle que nous connaissons davantage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule, on la retrouve notamment justement dans la finale de l'évangile de Matthieu. Eh bien, il faut que vous sachiez que ces deux formules coexistent à la même époque. Mais ceux qui peuvent étudier le Nouveau Testament disent effectivement que cette formule, celle de, au nom de Jésus, provient plutôt de milieu judéo-chrétien. C'est-à-dire de communauté chrétienne, mais issue du judaïsme. Et vous entendez bien que l'expression « au nom de Jésus », c'est comme de dire « je suis attaché ou rattaché, attaché au rabbi Jésus ». Donc, il y a une idée de lien étroit avec celui qui enseigne une doctrine. Alors que « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » vient plutôt de milieu grec. Et donc, des milieux qui sont évangélisés par la suite à partir de Jérusalem, voyez. Et ce qui est sûr, c'est que cette formule-là, au nom de Jésus, ne dure pas longtemps, elle va disparaître au profit de l'expression que nous connaissons encore aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout simplement, vous le comprenez, parce que avec la chute de Jérusalem, la prise de Jérusalem, la communauté chrétienne, notamment la judéo-chrétienne, fuit cette persécution qui prend aussi les chrétiens et la mission se tourne vers ce qu'on appelle les gentils. Je voudrais maintenant que l'on lise ensemble un des passages qui me semble fondamental, qui est celui des Actes, chapitre 8, 26-30. Je l'ai distribué et je vais le mettre le partager dans le tableau, là. Alors, je vais le chercher. Voilà. Peut-être avant de lire le texte, est-ce que par rapport à ce que nous venons de dire, j'arrête le partage, est-ce que vous auriez des questions qui surgissent en vous par rapport à ce que je viens de dire et vous voulez poser des questions de clarification? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont échappé ou que vous voulez prolonger? Ça va?
Oui. Bonsoir. Juste une petite question. Vous
oui.
Vous avez évoqué que chez les chrétiens, on ne se donne pas le baptême, alors que chez les juifs, il y a une différence.
Oui.
Comment qu'on explique cette différence?
Oui.
Parce qu'on pourrait dire naturellement, en tant que chrétien, on ne se donne pas le baptême parce que c'est Dieu qui intervient. Enfin,
oui.
Qui
oui.
Et pourquoi les Juifs ont cette approche différente?
Oui.
Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu
oui.
cette approche différente?
Oui, tout à fait. Merci pour la question. Effectivement, par là, je veux dire, ce que vous dites souligne l'importance, je dirais, spirituelle des effets du baptême. C'est Dieu qui intervient dans le baptême, mais dans tout sacrement. Du coup, ça nous permet de dire quelle est la dynamique de tout sacrement. Mais pour le baptême, c'est encore plus clair. C'est-à-dire que quand le christianisme naît au milieu des Juifs, les chrétiens connaissent des rites juifs qui sont des rites d'ablution, de purification. Vous savez, les Juifs ont pas mal de rites de purification, notamment dans des piscines de purification. Et donc, là, il ne faut pas attendre un ministre pour se purifier. On peut rentrer dans la piscine, se laver selon des codes et des rituels précis, et en sortir et être purifié, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, si vous voulez, mais c'est autre chose, les Juifs tiennent compte de ce geste de purification, notamment au moment du Shabbat, hein, avant de commencer le rite du Shabbat. C'est très important de se laver les mains selon un rituel bien précis. Mais par là, je veux dire qu'il n'y a pas l'intervention de quelqu'un qui me plonge dans l'eau. Vous voyez, je me plonge moi-même, rituellement même. Alors que pour les chrétiens, à partir de Jean-Baptiste, je dis bien, hein, qui n'était pas chrétien au vrai sens du terme, eh bien, à partir de Jean-Baptiste, on a ce rite de baptême, de plongée, mais qui n'est pas une auto-plongée. Il faut attendre que le ministre me plonge dans l'eau. Voyez? Alors, naturellement, le rite a une signification théologique très importante, justement. Et c'est celle que vous dites. C'est Dieu qui me donne la grâce d'être purifié, d'être guéri, d'être pardonné, voyez. C'est pas moi-même qui me procure ce salut, hein, voilà. Voilà la différence fondamentale entre les rites juifs et les rites chrétiens.
S'il vous plaît.
Oui.
À ce propos, chez les juifs, il y a quand même le prêtre qui assure. Qui asperge du sang des victimes pour
oui.
La purification du peuple rassemblé.
Oui, il y a une forme de oui,
voilà, il y a
une forme.
Il y a quand oui. Même ce
tout à fait, mais qui est pas, j'insiste, qui est pas un rite d'eau. Moi, je parlais du rite d'eau, hein. Oui. Et donc, effectivement, il y a s'il fallait rapprocher les rites, c'est surtout les rites de purification dans l'eau qu'on peut rapprocher. Au rite chrétien du baptême, n'est-ce pas? Le reste, effectivement, on peut y avoir des rites de purification par le sang, hein, par le sang. Mais là, peut-être que ce type de rite de purification par le sang, on peut plutôt la rapprocher à l'Eucharistie, justement. Vous voyez? À l'Eucharistie chrétienne. Hein, prenez, buvez ce sang versé pour vous et pour la rémission des péchés, dit Jésus à la scène. Mais on y reviendra. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Yann Salé?
Oui, oui, très bien, merci.
Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, avant de reprendre le texte, parce que ça nous prendrait trop de temps, de faire la pause maintenant. C'est 20h55. Je vous propose de nous retrouver à 21h05. 21h05. Bonne pause.
Merci.
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 Voilà. Je sonne une cloche toute spirituelle.
Oui, on est là.
Vous êtes là, c'est très bien.
Oui.
Voilà. Donc, on va reprendre là où nous avions arrêté, c'est-à-dire par là, je vais essayer de partager à nouveau l'écran. Attendez. Voilà. Nous étions arrivés ici, hein. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est d'aller voir effectivement ce texte des Actes des apôtres qui, on va lire ensemble le texte et je vais essayer de montrer quelles sont les structures fondamentales du baptême. Donc, le texte vous a été aussi distribué, là, je le projette à l'instant. Je vous fais quelques remarques d'abord pour le lire. Tout d'abord, vous faire prendre conscience, comme je l'ai déjà dit, que l'auteur des Actes des apôtres est Luc. Luc, qui est aussi l'auteur de l'évangile de son nom, Luc. Et quand vous en aurez le temps, n'hésitez pas à aller voir dans l'évangile de Luc, vers la finale de l'évangile de Luc, le récit des disciples d'Emmaüs. Et vous verrez, je vous le redirai encore à la fin de la lecture de ce texte, que nous avons là, par Luc, nous offre une sorte de diptyque des sacrements, hein, et notamment de l'Eucharistie pour Emmaüs et du baptême, ce texte que nous allons lire ensemble. Et donc, première remarque. L'autre remarque, c'est que ce texte n'est pas destiné, mais Luc ne l'a pas écrit pour relater comment on baptisait. Le but de Luc est plutôt de montrer que l'Esprit agit dans l'Église, envoie une mission et demande d'annoncer le Christ. Voilà, c'est un peu ça le but du texte. Mais nous pouvons attirer effectivement des renseignements très intéressants par rapport à ce que pouvait être le rite de la plongée baptismale au début de l'Église. Voilà, alors, je le lis et je vous rendrai attentif à l'un ou l'autre aspect. Tout d'abord, voilà le verset 26, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, va-t'en à l'heure du midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Je fais toujours remarquer quelque chose qui me semble très importante. Tout d'abord, l'ange du Seigneur, l'expression l'ange du Seigneur signifie Dieu lui-même. Hein, c'est le Dieu qui intervient et qui s'adresse à Philippe. Et c'est une expression typiquement sémitique qu'on retrouve dans le Premier Testament. Et je vous fais remarquer que ce que Dieu demande à l'apôtre, à Philippe, c'est quelque chose d'extrêmement impossible. On commence par une mission impossible. Il dit de partir l'heure de midi à Jérusalem, il fait un chaud de canard. Il faut qu'il descende sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. C'est une route, on le sait aujourd'hui, elle était une route très dangereuse, infesté de brigands. Et en plus, on lui dit, si tu vas sur cette route, sache qu'elle est déserte. Donc, du coup, si tu cries au secours, personne ne viendra te sauver. En gros, hein, voilà. Donc, la mission est une mission que l'on dirait, il ne pourra jamais y arriver. L'apôtre part, dit le texte, il partit et s'y rendit. Donc, c'est la réponse à un appel. Il répond à la demande que Dieu lui fait, Philippe. Et le texte continue en disant justement, alors le justement est assez quasi comique au sens que on disait que c'était la route devait être déserte, mais comme par hasard il y a un Éthiopien, vous l'entendez, un Éthiopien, un eunuque, un fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous les trésors, qui était devenu un pèlerinage à Jérusalem. Tous les titres, ils y sont. C'est un homme très important. Donc, on est en face comment on pourrait dire si, du personnage principal du texte, vraiment d'un homme très important. Et on apprend toujours par le texte que ce personnage était un juif pieux, parce qu'il revient, d'un pèlerinage qu'il fait à Jérusalem. Et donc, le texte nous dit que ce grand personnage s'en retournait assis sur son char. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui n'a rien à faire, sinon, comme nous le verrons, de lire, en lisant le prophète Isaïe. Donc, le char est guidé par quelqu'un d'autre. Il lit le prophète Isaïe. Je vous fais remarquer, c'est une chose peut-être qu'on n'y pense plus à cela, mais à l'époque antique, lire voulait dire lire à haute voix. Jamais on lisait pour soi-même, sans élever la voix. Donc, on lisait en prononçant les paroles. Si bien que le texte populaire dit « il a entendit que l'eunuque lisait ». Eh bien, donc, il lisait le prophète Isaïe, hein, et l'Esprit, donc, vous voyez, du coup, l'ange du Seigneur est devenu l'Esprit, hein, à nouveau, l'intervention de Dieu, dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Donc, la mission, c'est d'aller vers la personne qui est en train de lire ce passage du prophète Isaïe. Philippe y courut, il entendit qu'il utilisait le prophète Isaïe, il lui demanda « Comprends-tu donc ce que tu lis ?» Alors, comme pour marquer que ce n'est pas tellement de lire qui est important, mais de comprendre ce que l'on lit, c'est-à-dire faire descendre à l'intérieur et dans la compréhension de ce que veut dire le texte. Et l'eunuque répond quelque chose à nouveau de très étonnant. « Comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Voyez bien, ce grand haut fonctionnaire, riche, important, qui sait lire, qui doit rien faire sinon être assis dans un char, est démuni parce qu'il n'a personne pour être guidé, pour comprendre, pour entrer dans le voyage de la compréhension des Écritures. Hein. Et donc, invitation de l'eunuque à Philippe à monter et à s'asseoir près de lui, ça dit vraiment, on pourrait dire, presque dire, dans le plastique, ce qui va être l'action de Philippe, c'est-à-dire l'action de dénouer, d'ouvrir le texte. Et donc, les Actes des Apôtres disent « Le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant. » Et là, vous l'avez sous les yeux, je vous rappelle tout simplement, c'est un des passages du serviteur souffrant du prophète Isaïe, et je vous fais remarquer que nous le lisons encore le jour du Vendredi Saint, ce passage. Donc, il est vraiment au cœur, le passage du serviteur souffrant, au cœur du kérigme chrétien, de l'annonce chrétien. Et donc, on cite ce texte et les actes continuent. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» C'est une question, c'est assez intéressant, typiquement juive. Vous savez que les Juifs ont cette capacité d'interroger l'Écriture, d'interpréter l'Écriture. Il n'y a pas qu'une interprétation. Vous savez qu'on a pu avancer cette notion d'interprétation infinie des Écritures de la part du monde juif. Nous en avons hérité, je vous fais remarquer. Eh bien là, quelque part, l'eunuque invite Philippe à expliquer ce que lui pense. Donc, il y a une sorte de dialogue entre les deux. « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il ?» On a l'impression que c'est vraiment de l'ordre d'un désir, comme de quelque chose d'important. Et le texte continue en disant « Philippe prit alors la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Alors, c'est très intéressant parce que dans ce tout petit verset, nous avons quelque part un renseignement très précieux de la manière dont les premiers missionnaires de l'Évangile pouvaient travailler, comment ils pouvaient agir. Hein. Je le fais toujours remarquer, ça peut vous surprendre que je le fasse remarquer, mais c'est important qu'on en prenne conscience en lisant ce texte, c'est que Philippe, là où nous en sommes, n'avait pas d'Évangile. Vous comprenez bien, l'Évangile n'était pas encore écrit. Et donc, quel était le lieu pour pouvoir annoncer le Christ? C'était le Premier Testament, dans le cas précis, le prophète Isaïe. Et donc, tout le travail que la première communauté fait est celle d'interpréter le Premier Testament à la lumière de l'événement du Christ. Alors, certains spécialistes disent, c'est ainsi, c'est de cette manière-là, c'est de cette manière-là que les évangiles sont nés, à partir d'une interprétation du Premier Testament pour y voir, pour y découvrir, y déceler ce qui concerne le mystère du Christ. Donc, nous verrons tout à l'heure, on ne sait pas ce que lui a dit Philippe, on peut l'imaginer. Surtout, on peut imaginer qu'est-ce qu'il a pu lui dire, et je le verrai, je vous le montrerai tout à l'heure. Le texte continue, chemin faisant, hein. Alors, c'est très intéressant. Ce chemin faisant pourrait être un chemin concret, c'est-à-dire le char qui continue le chemin, mais ça pourrait être aussi le chemin que l'interprétation des Écritures permet de faire. Hein. Que, donc, le fait que cette interprétation va faire du chemin dans le cœur de l'eunuque. Hein. Et donc, chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau. Vous voyez bien, on a là l'importance de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voilà, là, c'est en gros, c'est l'erreur de l'assassin d'Agatha Christie, parce que jamais on a entendu parler dans le texte de baptême. Alors, c'est probablement de cela qu'a parlé Philippe. Si l'eunuque dit « qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il a cette information, et cette information, il a dû recevoir de Philippe au cours de l'explication qu'il lui donne de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. On peut imaginer presque que Philippe suit le canevas de Pierre, hein. « Convertissez-vous, faites-vous baptiser, plongez-vous dans l'eau et vous recevrez l'Esprit. » Mais ce qui est sûr, c'est que le désir de l'eunuque est d'être plongé dans l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Le texte continue en vérité au verset 38, vous le voyez. « Et il fit arrêter le char. » Mais, comme je vous l'ai indiqué en note, et j'ai mis un verset 37 entre crochets, vous le voyez là, comme s'il s'agissait d'un ajout du texte original, parce que, comme j'ai mis en note, la Tob, la tradition écuménique, dit bien que le verset 37 est attesté surtout par les témoins occidentaux dès le deuxième siècle. Cette variante est sans doute l'écho d'anciennes formules baptismales. Donc, on voit bien qu'au deuxième siècle, on prend le soin d'ajouter ce verset qui est le suivant. « Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Ce verset, naturellement, comme on vient d'entendre, typiquement baptismal, nous dit quelque chose d'important du baptême lui-même. Le baptême n'est pas un acte magique, n'est pas un rituel pour le rituel. Le baptême est une adhésion, une mise en relation avec le Christ. Et donc, ce verset peut être ajouté pour souligner qu'il n'y a pas qu'une plongée passive, mais au contraire, que le baptême est possible dans la mesure où il y a conscience de cette relation. Et donc, là, on a, à proprement parler, une confession de foi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Retenez cela parce que ce « je crois que je » va devenir très important dans l'évolution du baptême. Yann, vous voulez demander quelque chose, peut-être? Non. Non, non. Je voyais la main. Non, très bien, très bien. Donc, il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Voilà, Philippe le baptisa. À nouveau, le geste typiquement chrétien. Alors, rien ne nous est dit au nom d'eux, mais on peut imaginer que c'était le cas, comme si on recoupe les témoignages des actes de Paul, voilà, comme nous venons d'entendre. Et puis, mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc, l'apôtre disparaît aux yeux de Philippe et le texte termine de manière quasi comme un fioretti hein, de Saint François. Il poursuivit son chemin tout joyeux. Alors, je remarque toujours que il est dit ça, c'est pour dire que l'Esprit agit. Vous savez que la joie, la paix, comme dit saint Paul, vient de l'Esprit. Et donc le texte est construit magnifiquement du point de vue littéraire, parce qu'on commence par l'action de l'Esprit, l'ange du Seigneur, et on termine toujours par sa présence après ce moment de la plongée baptismale. Alors, je le répète, si vous avez le temps, faites une analyse quasi comparative, mettant côte à côte, en synopse, le texte de Emmaüs et ce texte que nous venons de lire, et vous verrez que la dynamique est la même. Personnage qui apparaît sur la route, lui expliquant les Écritures aux deux disciples d'Emmaüs, partageant un rite, qui est un rite plutôt d'eucharistique, et disparaissant après ce rite. Donc, on a la même idée. Ce sont des récits d'évangélisation, de montrant l'action de l'Esprit dans l'Église. Et donc, c'est très intéressant parce que j'essaie de retrouver un texte que j'avais commencé. Voilà. Si on regarde ce texte que nous venons de lire ensemble, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement sur ce que constitue le rituel baptismal à cette époque-là, ou les gestes baptismaux? Tout d'abord, retenons cela, puis je vous dirai pourquoi c'est important de partir de cette photographie, si je peux dire, de cet arrêt sur image de ce qu'est le baptême à cette époque. Tout d'abord, le kérigme, c'est-à-dire l'annonce, l'enseignement, le fait de découvrir dans les Écritures le Christ et de l'annoncer. Hein. Cette brebis envoyée à l'abattoir, c'est le Christ. J'ai mis entre parenthèses carrées parce qu'elle est comme un ajout du deuxième siècle, mais il y a une confession de foi de la part de celui qui entend ce kérigme. Il y a réponse face à l'invitation de l'annonce, de l'enseignement, du kérigme. Deuxième moment important, c'est la plongée d'eau au nom d'eux, comme nous l'avons vu tout au début, et puis le don de l'esprit, c'est-à-dire cela apporte l'esprit. Ces moments, vous voyez qu'ils sont très simples, le baptême chrétien était tout simple, même, vous le voyez, ça s'est fait sur le champ, c'est-à-dire pendant un voyage très rapide, au moins relativement rapide. Nous allons par contre voir comment, dans l'évolution du baptême, ces quelques aspects vont s'amplifier et devenir très importants. Nous allons donc le faire. Je vais essayer de retrouver le plan. Voilà, il est là. Nous le faisons dans cette deuxième partie du cours à partir de quelques textes de la littérature chrétienne antique que je vous situerai notamment à partir de leur genre littéraire et de leur fonction pour l'Église ancienne. Mais sachez que tous ces textes ne sont plus des textes scripturaires, donc, hein, ce sont des textes justement, font partie de la documentation des pratiques liturgiques et pas seulement liturgiques de l'Église ancienne. Et vous l'avez vu, hein, il parcourt quelques siècles de l'Église. Le deuxième siècle, vous en avez deux là, la Didaché et Justin le Martyr. Le premier, plutôt de la première moitié du deuxième siècle, Justin plutôt de la deuxième moitié du deuxième siècle. La tradition apostolique, par contre, c'est un document qui est daté entre le troisième et le cinquième, mais les rites qui rapportent, probablement, c'est plutôt le troisième siècle. Et le journal d'Égérie, daté plutôt du quatrième siècle. Nous allons faire ce que les archéologues appellent des carottages, c'est-à-dire nous allons voir comment les rites se présentaient à ces époques différentes, et donc nous allons essayer de les ajouter peu à peu à ce commencement que nous avons vu dans les actes. Alors, les historiens de la liturgie ont une expression très intéressante, ils disent que le culte de l'Église, et donc les rites liturgiques, voit un développement comme un corps voit sa croissance. Donc, les rites ont une croissance comme un corps, comme un organisme vivant. Et donc, nous constaterons que, mais déjà, si vous faites la comparaison entre les rites du baptême aujourd'hui et ceux que l'on faisait, que nous rapportent les actes, vous voyez que nos rites sont beaucoup plus développés que ceux que les actes rapportaient. Et donc, nous allons commencer par la Didaché. Et je reprends le texte. Et je vous dis quelque chose de la Didaché. Oui, donc le titre, on le retrouve toujours sous deux dénominations, ou la Didaché, qui veut dire enseignement, l'enseignement, ou la doctrine des douze apôtres. Alors, cela me permet de vous faire remarquer que, à partir du deuxième siècle, justement, au moment où les générations chrétiennes s'éloignent de l'époque apostolique, on sent le besoin dans les églises, dans différentes églises, généralement à partir de la Syrie, mais pas seulement en Syrie, de compiler des textes qui essayent de collecter les usages et les pratiques chrétiennes de manière à ne pas les oublier, de manière à les cadrer, de manière à les transmettre. Voyez. Et donc, ce texte qu'on appelle la doctrine des douze apôtres, naturellement, c'est pas la doctrine des douze apôtres, mais elle prend le nom des douze apôtres et fait référence aux douze apôtres pour pouvoir avoir de l'autorité. C'est un écrit qui doit avoir de l'autorité pour l'Église pour laquelle il est destiné, et puis pour les autres églises. Ce texte provient assez probablement de la Syrie occidentale, donc la région autour d'Antioche. Et ce texte nous est parvenu en grec. Donc c'est la langue grecque qu'il y a derrière la traduction française. Et ce texte donne des renseignements justement concernant le baptême, concernant les ordinations, concernant la prière, concernant le jeûne. Voilà, c'est en gros les grands thèmes qu'il traite. Et donc, le chapitre 7, au verset 1 à 4, donne des renseignements concernant le baptême. Et avant de le lire, sachez que, c'est la dernière indication que je vous donne, on sait, par les études qu'on en a fait, que ce texte était à l'origine un texte juif, que la communauté, qu'une communauté judéo-chrétienne a pu remanier, amplifier, transformer pour ses propres besoins. Et donc, on peut repérer différents strates et différents ajouts. On le remarquera dans ces quoi, 6 lignes, 8 lignes de texte. Donc voilà, le texte dit ceci, « Pour le baptême, baptisez de cette manière. » Alors là, du nouveau, vous voyez que c'est comme pour dire, voilà quelles sont les indications, voilà ce que vous devez suivre. Hein? Alors, vous remarquerez d'emblée l'importance du mot baptême. Pour le baptême, baptisme en grec, est le mot technique, désormais, pour dire le geste chrétien. Et puis, il y a le verbe baptiser, faites cela, plongez de cette manière. Après avoir dit auparavant tout ce qui précède, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire après avoir dit auparavant tout ce qui précède? Je ne pouvais pas vous mettre tout le texte de la Didache, mais sachez que là nous sommes au chapitre 7 et que les chapitres 1 à 6 de la Didache, justement, développent une sorte d'enseignement de la vie chrétienne, comment il faut vivre en chrétien. Et donc là, nous avons effectivement, avant le baptême, j'essaie de comprendre, après avoir donné l'enseignement, on peut paraphraser, baptisé au nom du Père. Donc il y a, on retrouve, j'y reviendrai tout à l'heure, on retrouve l'importance de l'annonce, de l'enseignement. On ne peut pas baptiser si on n'a pas d'abord enseigné, annoncé. Voilà. Et puis, vous avez donc la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, celle qui, comme je vous disais, aura du succès et qui va rester dans la formule baptismale. Et vous avez cette indication de « dans de l'eau courante ». « Dans de l'eau courante », en grec, « to udor zoi », donc la vie, hein, on pense qu'effectivement cette expression vient de la tradition juive. Bien de la tradition juive. Mais vous voyez que le paragraphe 2, qui entre autres change d'adresse, ce n'est plus la deuxième personne du pluriel, mais c'est la deuxième du singulier, ce qui peut montrer un ajout, hein, va faire toute une casuistique autour de l'eau. Parce qu'elle dit, ce texte, si tu n'as pas d'eau courante, ça veut dire qu'on n'en trouvait pas tout le temps, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux, si tu ne peux pas dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu manques de l'une et de l'autre, verse trois fois de l'eau sur la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, naturellement, vous remarquez l'importance de l'eau. Hein? Il faut quand même qu'il y ait de l'eau, qui est le signe du baptême. Après, la manière de le faire et le type d'eau est relatif, on pourrait interpréter le texte. Mais vous voyez bien qu'il y a toute une casuistique autour de l'eau et qui probablement naît, à mon avis, de la situation des chrétiens à cette époque-là. Nous sommes au début du deuxième siècle, les chrétiens n'ont pas d'église, n'ont pas de lieu où célébrer le baptême et en plus, les persécutions des chrétiens commencent et donc on fait ce que l'on peut avec l'eau que l'on a. Hein? Mais l'important, c'est que on dit bien verse l'eau au nom du Père et du Fils. On retient bien l'importance de la plongée ou de l'ablution de l'eau accompagnée de la parole baptismale. Et puis le verset 4 nous dit quelque chose du ministre, de celui qui baptise. Et il dit ceci, vous le voyez, que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le peuvent jeûnent avant le baptême, mais ordonnent au baptisé de jeûner un jour ou deux auparavant. Donc là, nous voyons quelque chose qu'on n'avait pas retrouvé dans les indications du Nouveau Testament. Tout d'abord, la question du jeûne, justement. Il faut jeûner avant de être plongé dans l'eau. Je vous fais remarquer que l'idée du jeûne, la pratique du jeûne vient des pratiques juives. C'est une pratique que l'on a ou pour des raisons pénitentielles ou pour des raisons importantes, la rencontre avec Dieu, ou dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, on retrouve l'importance du jeûne quand il faut, la veille d'une grande bataille, par exemple, on jeûne pour implorer de l'aide. Donc, l'aspect du jeûne, effectivement, a un caractère que j'appellerai tout à l'heure d'une préparation ascétique. Ce qui est intéressant, c'est que cela est partagé par un groupe de chrétiens, que le baptisant, le baptisé, d'autres personnes. Ça veut dire que là, nous sommes déjà dans la perception d'une communauté chrétienne, hein, d'une petite communauté chrétienne. Et enfin, je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de nom du ministre. On ne caractérise pas le ministre. On ne dit pas l'évêque, le prêtre, le diacre. Hein. On dit le baptisant, c'est-à-dire on nomme, on définit le ministre par l'action qu'il fait. Le baptisant. Signe, certains chercheurs disent, certains historiens de la liturgie disent que probablement est le signe que les ministères tels que nous les connaissons aujourd'hui ou qui sont développés par la suite ne sont pas encore importants à cette époque-là et que n'étaient pas encore dénommés d'une certaine manière. Voilà. Donc, si je reviens, et nous le ferons à chaque fois, vous le voyez bien, je vais essayer de trouver mon tableau, voilà, le tableau que nous avions. Si je passe à la didaké, qu'est-ce que je découvre? J'ai toujours un enseignement, comme on l'avait pour les... Je n'ai fait que remettre le tableau que nous avions pour les actes. Hein. On a l'enseignement, après avoir dit tout ce qui précède, là, on n'a pas l'impression qu'il y a une confession de foi, au moins pas de manière explicite. Il y a une plongée dans l'eau au nom d'eux, on le retrouve hein, dans la didaké. On ne parle pas du don de l'esprit, hein, mais naturellement, ce qui, par contre, nous découvrons, et je le mets peut-être en rouge, c'est qu'il y a une préparation ascétique. Que j'appelle ascétique. Ascèse, le mot ascèse vient du grec combat, lutte, et le fait de jeûner corporellement, c'est de se priver de nourriture, demande une vigilance, une attention, une maîtrise du corps qu'on appelle ascèse en monde chrétien. Et là, effectivement, cette préparation est caractérisée par le jeûne. Tel que nous venons de le dire. Et puis, j'ajouterai, il y a quand même, et ça c'est important, la communauté chrétienne. Hein, donc, la communauté chrétienne qui a un rôle, commence à jouer un rôle important dans la transmission du baptême. Hein. Il n'y a pas qu'un ministre, il y a un groupe qui initie au baptême. Si je passe à l'autre texte, le texte de Justin, justement, je vous disais, la didaké est plutôt première moitié du deuxième siècle, Justin, deuxième moitié du deuxième siècle. Justin, je situe un peu ce texte. Justin, c'est un grand écrivain chrétien. Mais avant d'être chrétien, il était, voilà, il exerçait le métier de philosophe. Il était philosophe de profession. C'est un homme qui est originaire plutôt de l'Orient, chrétien. Exerçant la philosophie, je vous disais, et lui-même, dans son autobiographie, il dit « C'est en cherchant la vérité dans la philosophie que j'ai trouvé la vraie philosophie, le christianisme. » Donc, c'est en tant qu'adulte qu'il se fait baptiser et il continue à exercer son métier de philosophe. Il continue à exercer son métier de philosophe. Et il prend tellement à cœur et son métier et le fait d'être devenu chrétien qu'il part de l'Orient et il va arriver en Occident et il va venir à Rome. Donc, ça peut nous sembler un voyage de plaisir, mais loin de là, parce qu'on peut imaginer que Justin veut aller au cœur de l'Empire, au cœur de la capitale de l'Empire, Rome. Hein, là où on commence effectivement à persécuter les Romains, les chrétiens, à persécuter les chrétiens. Et donc Justin, qui est un savant, un philosophe, quelqu'un qui écrit bien, va écrire, entre autres, une apologie pour les chrétiens. Le mot apologie, on peut le traduire par défense. Il prend les défenses des chrétiens, qui sont assez souvent, pas seulement persécutés, mais avant d'être persécutés, qui sont déniés, qui quelque part, ils ne sont pas considérés ou même on se moque des chrétiens, on dit des choses sur les chrétiens. Alors, il écrit cette apologie. Mais attention, il fait les choses jusqu'au bout. Il adresse cette apologie à l'empereur lui-même. Je dis toujours, il a le culot de l'adresser à l'empereur lui-même. Il est assez probable que l'empereur n'ait jamais lu cette apologie, mais n'importe. Lui, il écrit en pensant qu'il écrit à l'empereur pour rendre compte de ce que les chrétiens vivent. Alors, quand il arrive à Rome, il va louer, il le dit lui-même, une chambre dans laquelle, une maison, une pièce, dans laquelle il transmet la philosophie chrétienne, c'est-à-dire l'annonce du Christ, dans laquelle il insère l'annonce du Christ. C'est en exerçant cette activité qu'il va être arrêté, qui va être conduit à un procès et qui va être juste martyrisé, envoyé aux bêtes, comme on dit donc, qui va mourir martyr. D'où l'appellation Justin, philosophe et martyr. Et donc, vous voyez, il nous donne quelques indications sur la manière dont on baptisait à cette époque et on peut le recouper avec ce qu'on avait lu dans la Didaché. Nous sommes plus ou moins dans la même ambiance. Hein, voilà. De quelle manière, renouvelés par le Christ, nous nous sommes consacrés à Dieu, nous allons vous l'exposer maintenant, pour ne point paraître par cette omission présenter un exposé en partie défectueux. Donc, ce qui l'intéresse, c'est montrer comment on a été renouvelé par le Christ et on a été consacré à Dieu. Vous voyez, c'est ça, pour lui, l'important. Alors, il commence du commencement et il dit ceci: tous ceux qui se laissent convaincre et croient à la vérité de nos enseignements et de notre doctrine et qui assurent être capables d'y conformer leur vie sont instruits à prier et à demander à Dieu dans le jeûne la rémission de leurs péchés antérieurs et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. Ensuite, ils sont conduits par nous dans un endroit où se trouve de l'eau. Et selon le mode de régénération dont nous avons nous-mêmes été régénérés, ils sont régénérés à leur tour, car c'est au nom de Dieu Père, souverain de l'univers, de notre Sauveur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint qu'ils prennent alors un bain dans cette eau. Car le Christ a dit, tout se fonde sur la parole du Christ, si vous n'êtes pas régénérés, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Là, il cite Jean, l'évangile de Jean, au premier chapitre, le dialogue de Jésus avec Nicodème. Eh bien, vous le voyez, vous reconnaissez exactement à peu près ce que la Didaché disait déjà. Hein. Toute cette partie, vous la voyez bien, c'est l'enseignement. Tous ceux qui se laissent convaincre et croient à la vérité de nos enseignements. Ça veut dire que la partie de l'enseignement reste. Hein. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose, une information que nous n'avions pas eue auparavant. Ceux qui reçoivent ça doivent assurer être capables d'y conformer leur vie. Et ça, c'est très important, parce que le pôle que j'appellerais éthique de comportement en chrétien devient très important dans cette première partie de l'évolution des rites. On va essayer d'approfondir vraiment ce que vivent les personnes qui demandent de devenir chrétiens. Et donc, il faut qu'ils soient capables de conformer leur vie, que leur vie corresponde à ce qu'ils croient ou qu'ils pensent pouvoir croire. Et en ces cas-là, donc, sont instruits à prier et demander dans le jeûne la rémission de leurs péchés intérieurs. Et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. On retrouve la même ambiance de la didaké, à la différence qu'on ajoute la prière. La prière et le jeûne, et nous, donc la communauté, nous-mêmes, nous, c'est la communauté. Ensuite, ils sont conduits par nous dans un endroit où se trouve de l'eau, et là, nous avons donc effectivement la plongée baptismale avec des expressions qui sont tout à fait, qui viennent, vous l'avez compris, hein, de l'évangile, régénéré. C'est Jésus, l'évangile de Jean qui met sur la bouche de Jésus ce type de vocabulaire. Le baptême est une régénération, une nouvelle naissance. Et donc, là, ce passage est magnifique, hein, selon le mode de régénération dont nous avons nous-mêmes été régénérés, ils sont régénérés à leur tour. Le baptême est une transmission, est une tradition. C'est-à-dire que si j'ai été baptisé, je peux baptiser et transmettre ce baptême à un autre. Si j'ai été initié, pour reprendre le vocabulaire que nous avons appelé tout à l'heure, je peux initier d'autres. Voilà, il y a une sorte de transmission du baptême. Vous reconnaissez que cette plongée est faite au nom d'eux, hein, une formule apparemment trinitaire, Père, Fils, Sauveur Jésus-Christ et Esprit Saint. Et puis je saute toute cette partie-là et je vais vous montrer passer tout de suite au paragraphe 12. Vous voyez, parce que Justin disait je retrouve le passage, voilà, c'est au nom qu'ils sont alors, ils prennent un bain dans cette eau, hein, mais plus loin, au paragraphe 12, ce bain, hein, parce que là il employait un terme générique, hein, toloutron en grec, ce bain, alors l'empereur pouvait comprendre, compte tenu de l'importance des bains publics dans les villes romaines, hein, eh bien ce bain est appelé illumination. Il lui donne une connotation profondément théologique et il explique aussi pourquoi. Parce que ceux qui reçoivent cet enseignement ont l'esprit inondé de lumière. Hein. Et puis, regardez, il ajoute, celui qui est illuminé est lavé au nom de Jésus-Christ, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, et au nom de l'Esprit Saint, qui par la bouche des prophètes a prédit tout ce qui concerne Jésus. Si vous prenez un peu de recul et vous le récitez à haute voix, ce passage, vous allez découvrir que Justin fait probablement référence là au credo qui est en train de naître. Hein. Crucifié sous Ponce Pilate, au nom de l'Esprit, qui a parlé par les prophètes. Hein. Donc sachez que là, nous avons le témoignage de la naissance, de la pratique du credo à partir de rites baptismaux, la confession de foi que nous avons vue au deuxième siècle, comme par hasard, dans la variante du deuxième siècle dans les Actes des Apôtres. Il y a là la volonté de mettre en œuvre le credo qui deviendra très important dans les rites d'initiation. Et puis, regardez, Justin continue, c'est pas fini. Hein. Donc là, il est baptisé, il continue, quant à nous, toujours nous, le nous ecclésial, hein, après avoir ainsi conduit au bain celui qui a versé la foi et a marqué son assentiment, nous le menons chez ceux que nous appelons frères au lieu où ils sont assemblés. Et là, il y a la description de l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, et Justin prend le temps de souligner que, comme il l'avait fait pour le bain, cette nourriture n'est pas une nourriture quelconque, mais reçoit chez nous le nom d'Eucharistie, chez nous, chez les chrétiens. Et il n'est permis à personne d'y prendre part s'il ne croit à la vérité de notre doctrine, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés en vue de la régénération et s'il ne vit selon les préceptes donnés par le Christ. Donc, voyez bien que si je reprends mon tableau, si je le retrouve, hein, il est là derrière, voilà, nous retrouvons à nouveau chez Justin, l'enseignement, c'est quelque chose qui reste, l'enseignement qui, quelque part, est doublé, et je le mets en rouge, de la dimension éthique, que nous avons appelée éthique, de la vie chrétienne. Il faut conformer la vie à l'enseignement. On a une confession de foi par ce credo en naissance, hein. Donc il y a là la volonté de le mettre en œuvre, il paraît qu'il existe. On a toujours la préparation ascétique à laquelle on ajoute la prière, l'apprentissage de la prière, hein. On a la plongée d'eau comme on l'a vu. Et on a, en vérité, donc, bien sûr, on a le don de l'esprit, mais on y ajoute, vous l'avez vu, et c'est très important, nous ne l'avions pas vu dans la Didache, l'Eucharistie. Et à cette époque, comme le dit Justin, à partir de cette époque, on ne peut pas participer à l'Eucharistie si on n'a pas été baptisé. Je vous fais remarquer une chose, jusqu'à maintenant, nous sommes au deuxième siècle, nulle part il est dit qu'il y avait une onction. Il n'y a pas d'onction. On la verra paraître justement dans le texte qui suit, et qui est un texte assez complexe, donc la tradition apostolique, qu'il faut rattacher du point de vue littéraire toujours au genre littéraire de la pseudo-épigraphie. Naturellement, ce n'est pas une tradition qui vient des apôtres, mais on l'appelle tradition apostolique pour donner autorité au texte. Nous sommes au IIIe siècle, et donc c'est une compilation de textes, d'informations, qui essaye d'indiquer comment baptiser. Et c'est un long texte, comme vous l'avez vu, et j'essaie de vous dire très rapidement qu'est-ce qui change. Beaucoup de choses changent à partir du IIIe siècle. Tout d'abord, nous constatons que nous sommes en face d'une Église structurée. Vous le voyez qu'on parle de docteur, on parle de tout le peuple. Ce n'est pas une petite communauté. Donc, il y a quelqu'un qui enseigne, il y a la fonction d'enseigner est tenue par les docteurs, par ceux qui enseignent probablement le credo, la foi chrétienne, et tout le peuple se réunit pour l'arrivée de ceux qui viennent à la foi. Ceux qui viennent à la foi sont accompagnés, ceux qui les ont amenés témoigneront à leur sujet, c'est ceux que deviendront les parrains et la marraine, ils ne sont pas encore appelés comme ça, mais ce sont des témoins de la vie de la personne qui veut devenir chrétien, et on a des interrogations sur l'état de vie ou sur les métiers et les professions. Vous voyez que cette dimension éthique que Justin soulignait devient très importante quelques siècles après. Je ne m'attarde pas sur l'examen et les professions. Lisez-les avec intelligence, par là je veux dire que c'est propre à cette époque-là, on ne pouvait pas devenir chrétien si on exerçait certains métiers, ça c'est clair, parce qu'ils étaient contre l'éthique chrétienne, on pourrait les expliquer si vous voulez, on en parlera la prochaine fois, mais c'est seulement après cet examen, c'est seulement après avoir abandonné certains métiers qu'on pouvait accéder à l'enseignement, c'est-à-dire à l'instruction. Et cette instruction, regardez bien, durait 3 ans. Donc, du coup, l'enseignement prend une importance énorme, vous voyez, d'un enseignement qui dure 3 ans avant le baptême. Et pendant cette instruction, tous les jours on fait l'instruction, on prie pour ceux qui reçoivent l'instruction, ce qu'on appelle les catéchumènes. Vous voyez, le mot apparaît là, donc le mot commence à apparaître à cette époque-là. Et les catéchumènes ne peuvent pas prier avec les fidèles. Ils sont séparés des fidèles dans la prière parce que la prière est destinée pour les fidèles. Et même, ils ne peuvent pas se saluer mutuellement, ils ne peuvent pas se donner le baiser de paix. Il faudra attendre le baptême pour recevoir le baiser de paix. Et puis, il y aura un long développement sous ceux qui vont recevoir le baptême. Donc, vous voyez que si je reprends mon tableau, l'enseignement reste toujours là, mais il y a une grande amplification. On a vu, ce sont 3 ans d'enseignement. Donc, du coup, ça prend beaucoup d'importance, comme on le disait. Et là, nous avons effectivement l'importance de cette amplification de l'enseignement. La préparation est une préparation toujours ascétique à travers les exorcismes, la prière sur les catéchumènes pour éloigner les esprits mauvais. Et puis, effectivement, nous découvrons que entre la plongée baptismale et l'Eucharistie, dans la description du baptême, il y a des onctions. Il y a des onctions. C'est très important de reprendre tous ces aspects-là qui deviennent importants. Ce sont une amplification du rite et de l'enseignement et de la catéchèse, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous constatons? Je vais essayer de faire le point très rapidement. C'est que la préparation au baptême s'élargit, s'amplifie, ça c'est clair. S'amplifie et pour la préparation et du point de vue rituel par rapport au rite. Le texte lui-même, si vous lisez, vous pourrez le lire par vous-même, met en œuvre une église vraiment structurée. Vous trouverez l'évêque, vous trouverez les presbytres, vous trouverez les diacres. On a un développement liturgique très important. Nous sommes vraiment proches du IVe siècle. Et au IVe siècle, enfin, je terminerai par là, nous avons le témoignage d'une femme, Égérie. Égérie est une pèlerine, une gauloise, donc de la Gaule de l'époque, du IVe siècle. On pense de situer son lieu d'origine dans le sud-ouest actuel de la Gaule, entre l'Espagne et la France actuelle. Eh bien, elle part en pèlerinage à Jérusalem et elle écrit un journal de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, de tout ce de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on vit. Elle relate ce qu'elle voit et à nouveau. Nous constatons qu'au IVe siècle, moment où l'Église peut professer sa foi, célébrer sa liturgie, et je vous ferai remarquer qu'à Jérusalem, Constantin lui-même, l'empereur, va construire pour les chrétiens une basilique sur le lieu où le Christ a été crucifié, que Égérie appelle le martyrium, le lieu du martyr du Christ. Et puis une autre église sur le lieu où il est ressuscité, l'anastasis. Quand vous lirez le mot anastasis, Égérie fait référence à l'église construite sur le tombeau du Christ. Voilà. Et donc, nous découvrons que l'initiation se développe dans le temps du carême. Égérie parle de 7 semaines de carême, de préparation, que les catéchumènes donc, qui reçoivent le baptême à Pâques reçoivent une instruction, un enseignement qui a pour centre le credo. Je vous fais remarquer que le credo va être écrit par un concile, le concile de Nicée en 325. On a un ajout en 381 pour le concile de Constantinople, mais le credo justement devient le lieu de l'enseignement de l'Église. L'évêque est censé expliquer le credo stick après stick, verset après verset, tout au long du carême par des prises en compte de la parole et puis le Notre Père et les rites du baptême. Je vous invite à lire ce texte et la prochaine fois, nous commencerons par un tableau qui résume ces rites et c'est important que nous apercevions la structuration des rites d'initiation à cette époque-là parce que c'est sur ces rites-là qu'on s'est inspiré au moment du Concile Vatican II pour écrire les rituels actuels. Et donc, la prochaine fois, nous résumons très rapidement l'évolution des rites du baptême à partir du IVe siècle jusqu'à aujourd'hui, à partir d'un tableau qui a été déjà distribué. Et puis, nous allons prendre en compte les rituels actuels de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le rituel pour les adultes, le rituel pour les bébés et le rituel de la confirmation. Donc, nous verrons comment on célèbre ces rites aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Et je vous dis donc à mardi prochain.
Merci, à mardi.
À mardi.
Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup, à mardi.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée.